Le roi est mort. Vive le roi! Ah, ça fait longtemps. Trop longtemps. Je savais pas comment commencer ça. Je savais pas quoi vous dire. Puis j'ai pensé, l'autre fois, je parlais de podcasting sur Facebook avec des amis. Puis, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose du genre « Ah, ben, peu importe si tu recommences ou pas après quelques années à faire du podcasting, ta couronne va toujours t'attendre. » Et c'est à ça que j'ai pensé, ma couronne de podcaster québécois. C'est drôle comment une activité qui a pris autant de place dans ma vie pendant plusieurs années est devenue une activité qui en prenait plus du tout à un moment donné. C'est fou comment on évolue, c'est fou comment les choses changent, les choses prennent moins de place petit à petit. Le podcasting a pris beaucoup de place dans ma vie depuis 2004, au moment où est-ce que je l'ai découvert. Ça a commencé à en prendre plus quand j'ai commencé à en faire, évidemment, en 2006. Et ça occupait mes pensées tout le temps. Aller jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Honnêtement, j'ai arrêté de faire du podcasting presque complètement en 2016, début 2017. Ça fait maintenant 3 ans. Et je dirais que ça fait, je ne sais pas si ça fait 1 an que ça a arrêté d'occuper mes pensées. En réalité, je continuais à y penser, je continuais à noter des choses. Je continuais aussi à garder des bookmarks de trucs à parler sur mon furteur. Je continuais à m'intéresser au podcasting comme si j'allais produire une autre émission. Et puis, ben, tranquillement, j'ai laissé ça de côté. J'ai laissé ça de côté pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, mais là, c'est drôle ce qui m'a fait revenir à ça. Ben, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est vraiment de recommencer tout simplement à parler d'un micro. Pas pour mon podcast, pas dans le but de faire un podcast, mais pour d'autres raisons. Et là, à un certain moment donné, j'ai raccroché. J'ai eu le goût d'en faire et je me suis dit, c'est le temps ou jamais, on recommence. We'll be right back.
lift me into shape. I must have been asleep for days. Your moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved and drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely.
Et que c'était bon ça, oui, The Cure, Just Like Heaven. Je vous disais que j'ai eu envie de recommencer à faire du podcasting de manière un peu, je dirais, indirecte. J'ai sorti mon micro, pas pour faire du podcasting, et ça m'amène à recommencer, entre autres. J'ai sorti mon micro parce que j'enseigne au cégep, j'enseigne le graphisme et j'ai eu à préparer des vidéos pour mes étudiants, pour leur donner des cours, pour leur montrer, faire des démos aussi. Puis j'ai sorti ce micro-là, j'ai sorti mon interface audio, j'ai tout branché ça et ça faisait longtemps que j'avais pas tout branché ça justement et je me suis dit « My God, je peux pas. » Pour faire de podcast. J'ai tout branché, là, j'ai tout sorti. Je me réhabitue à entendre ma voix dans un micro et à entendre le son de ma voix tout simplement. Et je me suis dit, ça y est, je le fais. Puis c'est là, voilà. Pourquoi aussi j'ai mis The Cure? C'est parce que moi, je participe pas beaucoup aux défis sur Internet, sur Facebook. T'sais, genre, publie 10 livres que tu as aimés, 10 films. T'sais, c'est tout le temps ce même principe-là. Puis, même chose des fois quand il y a des devinettes, des trucs. Ça arrive à l'occasion que je réponds, quand je sais que j'ai la bonne réponse. Puis, les gens m'envoient, « Ah, c'est à ton tour, faut que tu publies ça. » Mais moi, j'ai horreur, mais horreur de ce genre de choses-là. Sauf que cette fois-ci, la personne qui m'a challengé, c'est quelqu'un que je respecte et dont j'apprécie les goûts musicaux. Donc, il m'a challengé à mettre à mon tour 10 albums et il l'a fait de manière ouverte, genre, si ça te tente, fais-le. Sinon, c'est pas grave. Et je l'ai fait. J'aime mieux avoir justement la liberté plutôt que me faire dire « tu dois faire ça » et etc. C'est mal me connaître que m'obliger, essayer de m'obliger à faire quelque chose, ça marchera jamais. Et là, avoir le choix. Et aussi, c'est un sujet qui me tentait, la musique. Puis, en ces temps de COVID, c'est aussi le moment de partager puis de faire des choses. Donc, j'ai décidé de m'y mettre, j'ai décidé de le faire. Et voilà, j'ai partagé certains albums, puis à travers la liste, il y avait un album de The Cure. Et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Et là, c'est clair. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous le demandez. Vous dites, ah Sylvain, est-ce qu'il va le faire? Parce que ça fait si longtemps. Et puis, il peut pas ne pas. Oui, j'en ai un. Vous l'attendez, c'est clair. C'est la première affaire que je fais après l'intro. C'est un carburant de la semaine. J'ai une canette de 473 millilitres dedans mes mains. Ça s'appelle la double descente. Pour ceux qui connaissent les bières québécoises, vous connaissez Boréal, la IPA du Nord-Est. C'est un peu comme un dérivé de la IPA du Nord-Est. C'est aussi une IPA du Nord-Est, mais sur les stéroïdes. À place de faire 6.4% d'alcool, elle fait 8% d'alcool. À place de faire, je me rappelle plus si c'est dans les 60 ou 70 IBU pour la IPA du Nord-Est. Celle-là, elle fait 100 IBU. Et il y a des notes de mangue, d'agrumes, clémentine, ça dit aussi. Je l'ai déjà goûté. Je vous mentirai pas. C'est une de mes bières, sinon ma bière québécoise préférée. Mais il n'y en a jamais, ces tablettes. Sauf que je suis arrivé à mon épicerie, puis il y en avait, puis j'étais heureux. En fait, il y avait de la IPA du Nord-Est, il y avait de la double descente, puis il y avait une autre nouvelle IPA style Nord-Est, Nouvelle-Angleterre. Je ne me rappelle pas le nom, toujours de Boréal. Donc, il y avait ces trois sortes-là. J'ai fait « Wow, my God, je ne peux pas ne pas en acheter ». Et voilà, j'ouvre ça dans vos oreilles. Attention. Et je vais verser ça. Laissez-moi une seconde. C'est blade à la fin. Je continue à verser, mais on n'entend plus parce qu'il y a de la mousse, puis parce que le verre commence à être plein, tout ça, on entend moins, mais c'est beau. Évidemment, ça ressemble à du jus d'orange. Ça ressemble beaucoup à du jus d'orange, sauf qu'il y a une couche de mousse par-dessus. Et c'est très parfumé. C'est wow. C'est tout le temps wow. Je pense que ça doit faire 3 ou 4 fois que j'en achète sur quelques années. Donc, ça n'arrive pas souvent qu'il y en a, mais ça rend un gars heureux. Et là, je vais la goûter dans vos oreilles aussi. C'est du bonheur en canette. Honnêtement, si vous voyez ça, faut en acheter. Et le visuel là, sur la canette est assez cool. C'est genre une mangue, un citron, une clémentine, je ne sais pas trop, des fruits qui descendent avec un traîneau, qui descendent sur une genre de cocotte de houblon. C'est un peu drôle. Mais c'est bon, ça n'a juste pas de sens. C'est vraiment excellent. C'est très parfumé, je vous le disais. C'est pas si effervescent que ça. À savoir en alcool, 8%, c'est quand même pas pire. On sent pas tant que ça l'amertume parce que c'est une amertume qui est très fruitée, très ronde. Je vous dirais que quand on pogne le fond puis qu'il y a vraiment le dépôt de houblon dans le fond, là, on la sent plus, l'amertume. Mais quand c'est frais comme ça, les premières gorgées, c'est vraiment fantastique. Honnêtement, j'ai commencé à enregistrer en n'ayant aucune idée de quoi je vais vous parler. C'est vraiment freestyle. J'avais ma bière, j'avais juste envie de vous dire « Le roi est mort » en début de podcast. J'avais préparé mes 3 chansons. C'est tout. Et je n'avais aucune idée. Ça se fait au fur et à mesure dans ma tête. J'avais aussi un peu envie de vous parler de pourquoi, comment j'ai arrêté de faire du podcasting. J'ai pas juste arrêté de faire du podcasting. Il y a différentes choses que j'ai diminuées, j'ai arrêté dans ma vie. Pourquoi? C'est sûr, je vieillis un peu, premièrement. Deuxièmement, c'est que ma job d'enseignement me prend plus de temps aussi bien souvent. Je m'investis là-dedans. Il y a aussi que ces dernières années, ça fait quand même quelques années, là, je suis à temps plein, je suis permanent, tout ça. Il y a aussi que j'enseigne pas près de chez moi. Ça prend 1h15 me rendre. Évidemment, heureusement, j'y vais pas 5 jours semaine. J'y vais souvent 3-4 jours semaine. C'est quand même beaucoup faire de la route comme ça autant. Donc, tout ça est demandant. Il y a aussi qu'avec le temps, j'ai eu un deuxième enfant. À un moment donné, quand on ajoute des choses dans la vie, il n'y a plus de place. Ça déborde. Puis, c'est bien malgré moi que j'ai diminué, arrêté de faire des podcasts. Il est survenu quelque chose. Évidemment, j'avais diminué déjà de faire des émissions de beaucoup. Puis là, j'avais été invité à Podcast Mania en 2016, je crois, à l'automne. J'avais invité mon ami Bob Goyetch. Et là, quelques jours plus tard, il est mort. Subitement. Donc, sur le coup, ça m'a donné vraiment envie de faire du podcasting, mais tu sais, après le boost initial, j'avais plus envie. Ça vraiment l'envie d'en faire est un peu morte. Ce que vous avez pas, c'est que j'ai continué à faire des émissions à l'occasion. J'ai continué à enregistrer, à chaque année, j'avais l'habitude d'enregistrer mon émission de fin d'année, début d'année. Donc, faire un bilan de l'année en podcasting, mais aussi mes prévisions. Et j'ai continué à le faire pendant 2 ans. J'ai fait la version fin 2016, début 2017, fin 2017, début 2018. Puis je pense que j'ai fait 2018, 2019 aussi. Je les ai enregistrés, je les ai téléchargés sur ma plateforme d'hébergement. Je ne les ai jamais publiés officiellement dans le blog. En fait, je les ai partagés sur Facebook, je les ai partagés une couple d'endroits sur le web comme ça, mais je n'ai pas fait de publication officielle, fait qu'ils n'ont jamais été mis officiellement dans le feed, mais ils existent, ils sont là. Sont bonnes en plus, ces émissions-là. Fait que je me suis dit, je vais me donner un coup de pied dans le cul, je vais aussi finalement les publier officiellement pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, j'ai arrêté tranquillement de faire du podcasting. Puis comme je vous disais tantôt, ça a pris du temps, mais à un moment donné, ça a arrêté d'occuper mes pensées. Pourquoi? Ben, entre autres parce que je me suis mis à faire aussi autre chose. Il y a d'autres hobbies que tranquillement ont pris la place créative qu'avait le podcasting dans ma vie. C'est devenu un peu une corvée à quelque part faire un podcast parce que pour moi, éditer les notes de l'émission, c'est extrêmement long, c'est interminable. J'ai beaucoup de sujets, j'ai beaucoup de liens, c'est très documenté. Fait que quand j'arrive pour publier les notes de l'émission, ça prend au moins 1 heure. Donc, préparer l'émission, c'est long. Enregistrer, je le fais comme live sans coupure, donc plus ou moins 50 minutes, 1 heure, un petit peu de préparation puis un petit peu de ramassage à la fin, mais à l'intérieur 1 heure et quart à peu près, c'est fait, c'est réglé. Sauf que par la suite, faut uploader, faut écrire toutes les notes, faut mettre les liens, faut c'est long. C'est long, ça prend plus qu'une heure, ça prend presque 2 heures en fait. Fait que ce qui arrive, c'est que j'ai moins envie. C'est la partie que j'ai le moins de fun. Honnêtement, écrire les notes. Puis, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que les gens vont vraiment sur mon site, vont cliquer ou ils font des recherches Google? Parce que, tu sais, c'est ça aussi, là. Si je vous parle d'un sujet, si je vous parle d'un podcast qui me passionne, ben vous irez peut-être pas aller taper québecbaladeo.com, aller retrouver le bon épisode, après ça, cliquez, allez voir les commentaires, les notes de l'émission pour finalement retrouver ce lien-là. Je pense que c'est trop long. Puis Google va tellement trouver l'information plus rapidement. Fait que dans ma réflexion de recommencer de faire du podcasting, je me dis, est-ce que je continue vraiment à faire des notes d'émission ou sinon j'y vais plus librement, puis c'est peut-être une façon que ça va me donner le goût de recommencer un petit peu plus, c'est-à-dire d'y aller plus freestyle, de, oui, je vais me préparer peut-être des sujets, des petits liners pour me dire, OK, je voulais parler de ça, je voulais parler de ça, je voulais parler de ça, mais je pense que je ne ferai plus de notes d'émission de façon classique comme je le faisais avant. C'est sûr que une des raisons pourquoi je le faisais auparavant, c'est que c'était bon pour les engins de recherche, ce genre de choses-là, mais et c'est sûr que ça m'a aidé avec le temps, là, parce que les gens me trouvaient majoritairement par le web plus que par les agrégateurs comme iTunes, comme tous les agrégateurs de podcasting. Donc, je mijote ça. Je vous fais pas de promesses, je réfléchis, je me dis, je vais faire quelque chose avec ça, puis c'est sûr que je vais vous en reparler. Donc, je vais jouer une autre chanson, puis je vous parle tout de suite après, puis je vais me prendre quelques gorgées de bonne bière durant ce temps-là. À tout de suite! Oh, pardon. c'est ma gorge qui a fait un bruit parce qu'il y a de l'air. parce que j'ai avalé de la bière juste avant de vous parler. La tune s'appelait In Between Days, une de mes préférées de The Cure. The Cure qui a fêté même ses 40 ans d'existence. Je savais que Robert Smith était assez vieux, mais pas tant que ça. il est né en 59. Puis j'ai lu que c'était sa fête hier. Mais en même temps, quand j'ai publié hier l'info pour l'album de The Cure, puis là j'ai vu que c'était sa fête, j'ai fait comme « Wow, ça serait une bonne occasion de mettre ça dans mon podcast ». Fait que c'est cool. J'ai vu aussi qu'il était censé sortir un album. Ben en fait, je dis lui parce que, bon, le band, c'est un peu lui, là. The Cure en 2020. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'entendre ça. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un album de The Cure. Je me rappelle, début des années 2000, il y avait comme un genre de comeback, puis j'avais acheté un album qui était quand même assez bon. Il y en a un autre que j'ai acheté par après qui était un petit peu plus bof. Peut-être vers 2000, quoi, 10, 12, 14, je me rappelle même pas. Ça fait un petit bout de temps. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai plus suivi du tout. Sauf que là, ça m'intéresse de voir comment ça évolue. Puis il vieillit, le gars. veut pas, tu sais, il est né en 59, hein. Puis il y a plus que 60 ans, là. Fait que... c'est ça, il commence à perdre des cheveux aussi, lui qui avait une tignasse incroyable, même il y a 5, 6 ans, 10 ans, commence à en perdre pas mal, donc, mais sa voix est intacte, puis tu sais, il y a un côté, enfant, je trouve ce gars-là, en entrevue, tu sais, il sonne encore comme un kid qui se fait interviewer, c'est quand même assez cool. Je vous parlais qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place du podcasting dans ma vie comme hobby, puis ben c'est la photographie. C'est quelque chose qui a toujours été là, que j'ai... Je suis pas sûr que j'ai déjà parlé dans le podcast. J'ai toujours trippé sur la photo plus loin que je me rappelle. Je me rappelle quand j'étais petit, des photographes qui sont venus chez nous photographier. Le photographe se déplaçait à l'époque avec tout son setup, ses spots. Je me rappelle du photographe M. Boutet de la Pocatière. Je me rappelle une fois, je ne sais pas si j'avais 3 ans, 4 ans. J'étais très, très jeune. En tout cas, j'ai l'air tout petit dans les photos. Je suis minuscule. Puis, je me rappelle qu'il s'était installé dans la cuisine chez nous. Je me rappelle son setup. Je me rappelle comment il nous plaçait. Pour qu'on se fasse prendre en photo. Donc, le métier de photographe m'a toujours un peu fasciné. Quand j'étais jeune, j'ai pris des photos avec l'appareil familial, qui était un Instamatic. Vraiment pas un appareil fantastique. Optique, poche, format d'image assez carré, qui fonctionnait avec des flash cubes. Donc, un appareil en plastique. Objectif, ben, si on peut appeler ça un objectif, une lentille cheap. Mais j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle que quand j'étais au primaire, je l'ai déjà apporté dans une couple de sorties scolaires, l'appareil photo familial, genre sorti en, c'était-tu en quatrième année, je pense, j'ai apporté l'appareil photo. Puis, un an ou deux après, j'ai commencé à vendre des affaires, puis à être camelot, puis à faire des sous. Puis un des premiers trucs que je me suis acheté avec mon argent, c'est un appareil photo. Encore une fois, vraiment pas top. Même encore moins de bonne qualité. C'est un appareil Kodak disque. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. C'était du film sous forme de... C'était un disque qui tournait dans l'appareil. Donc, ça faisait un appareil extrêmement plat. C'était juste 15 poses. C'était pas beaucoup, mais le format des images était minuscule. Ce qui fait que c'était très granuleux. Fait que j'ai été très déçu de cet appareil-là. Par la suite, je me suis acheté un autre appareil photo plus tard, quand j'ai commencé le cégep, fin du secondaire, début cégep. Sinon, ben, j'ai commencé à faire de la photo au secondaire, en secondaire 4. Et je me rappelle même qui faisait de la photo avec moi à cette époque-là. C'était des activités culturelles du midi. Nous, c'était obligatoire d'en avoir une par semaine. Donc, tant qu'à en faire, hey, la photo, noir et blanc, chambre noire, c'est cool. Donc, je me suis mis à faire ça. Et je me suis mis vraiment, vraiment à triper. Ensuite de ça, quand je suis rentré au cégep, on avait à faire des cours de photo. Donc, c'était pas une corvée pour moi. 4 cours de photo sur le cursus en graphisme à l'époque. Donc, à partir de la 3e session, il y avait des cours de photo jusqu'à la fin. Donc, une technique, c'est 6 sessions. Donc, session 3, 4, 5, 6, cours de photo à chaque session. Donc, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, je tripais. Je suis même aussi le genre à avoir utilisé un appareil réflexe, donc un bon appareil, quand j'ai fait mon bal de finition secondaire. J'ai toujours d'excellentes photos, tu sais, les photos de mon bal de finition sont vraiment fantastiques. C'est sûr, je les ai pris avec un appareil réflexe. C'est sûr, d'un autre côté, il y a quelques shots que j'ai manqué le focus, manque d'expérience, mais j'ai vraiment certaines très, très belles photos. Donc, il y a un peu tout ça. Quand je suis arrivé à l'université aussi, j'ai fait de la photo, j'ai fait quelques cours de photo. Puis, quand on a commencé à travailler, ma blonde puis moi, ça n'a pas été long. Au bout d'un an ou deux, on avait l'habitude de se faire des cadeaux de couple. Puis une année, on s'est acheté un appareil réflexe de bonne qualité. Puis, ça n'a jamais vraiment arrêté. Les photos de mon fils, quand mon fils était jeune, étaient toutes en argentique, toutes prises avec l'appareil réflexe. Même si les caméras numériques existaient, moi, je préférais prendre des photos sur du film, avec des bons objectifs, des belles photos. Puis, je les faisais scanner. Puis aujourd'hui, je suis tellement content parce que la qualité est là. Puis sinon, j'aurais pris des photos avec des appareils à 2-3 mégapixels. Puis aujourd'hui, je serais hyper déçu. Tandis que là, bien scanné, je peux aller chercher un 15-20 mégapixels minimum avec mes vieux négatifs. Donc, c'est une passion qui a toujours été là, qui était parfois latente, dans le sens que j'étais membre d'un club photo après que mon fils était né, avant de déménager de Montréal, vers fin 2000, début 2010. Puis après ça, quand j'ai déménagé, ça a un petit peu tombé. Un petit peu pas tombé dans l'oubli. Je prenais toujours des photos pour, besoins familiaux, les fêtes de famille, Noël, ces choses-là, mais moins de façon active personnellement. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est le moment où est-ce que je me suis mis à enseigner la photo. J'ai commencé à enseigner la photo vers 2011, justement, aux étudiants en graphisme. Je pense que la 3e session que j'ai enseignée, et là, ça fait 10 ans. Donc, ça commence à faire longtemps et je donne depuis ce temps-là chaque année le cours de photo aux étudiants en graphisme en première année. Sauf que je dirais il y a quoi? Il y a 6 ans, 7 ans, j'ai commencé vraiment à triper. Pas que j'ai pas trippé entre les deux, c'est je prenais quand même de la photo avec du film à chaque année, quelques rouleaux. Depuis toujours, je n'ai jamais arrêté. Okay, à chaque année, je prenais quelques rouleaux, des années moins, des années un petit peu plus. Sauf que là, depuis à peu près 7 ans, je suis retombé dedans. Je me suis acheté un bon appareil numérique. Ça doit faire à peu près ça, 6 ans et demi, 7 ans. Puis, il y a 7 ans, 8 ans, après quelques années à donner des cours, j'ai recommencé à prendre beaucoup de photos en pellicule, de plus en plus. Et là, je dirais il y a 3 ans, c'est devenu un puits sans fond. En fait, je me suis mis vraiment à prendre ça au sérieux, donc à vouloir vraiment être top. J'étais déjà bon, mais là, vraiment vouloir être top, aller à un niveau supérieur, de qualité, autant au niveau conceptuel, prise de vue, rendu esthétique, tout ça. Je me suis mis à observer les grands photographes, qu'est-ce qu'ils faisaient, et je me suis mis à vouloir faire la même chose. Donc, ça veut dire d'obtenir, d'acheter de l'équipement de meilleure qualité. Ça veut dire aussi d'essayer des choses. Ça veut dire vraiment s'investir, puis essayer d'observer pourquoi ces gens-là sont bons, qu'est-ce qui fait que leur travail est bon, et essayer de mettre ça en pratique. Donc vraiment, depuis quelques années, la qualité de mes photos a augmenté énormément. Mais évidemment, ça a mis de côté le podcasting. L'autre chose qui est arrivée l'année passée, c'est qu'en voulant justement améliorer la qualité, tout ça, ben on s'équipe. Là, j'ai 2-3 scanners. Je regarde ma tablette ici en haut de moi, je dois avoir au moins une dizaine d'appareils 35 mm. En tout, j'ai pas compté, mais j'ai compté un peu l'autre fois, mais il n'était pas tout sur la tablette. Mais je pense que j'ai une trentaine d'objectifs pour prendre des photos. J'ai pas beaucoup d'appareils moyen format, mais je me suis acheté il y a à peu près un an et demi un appareil grand format, c'est-à-dire un appareil qui utilise la pellicule donc du film 8x10, donc des feuilles de pellicule 8x10. Et ça, c'est vraiment, c'est une autre game. C'est autre chose. C'est... Tout est manuel sur un appareil comme ça. Il faut vraiment être très attentif. Faire le focus, c'est vraiment... Ça demande de l'attention. Et quand j'arrive à quelque part pour prendre des photos, ça prend minimum 20 à 30 minutes juste m'installer puis être prêt à commencer à vouloir prendre des photos. C'est un processus qui est très long, mais en même temps, c'est très, très, très gratifiant, très satisfaisant. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu tout ça qui a tranquillement remplacé créativement la place qu'avait le podcasting dans ma vie. En même temps, il y a un côté très plus spontané que le podcast. De faire de la photo. Parce que je peux traîner un appareil photo n'importe quand, je peux prendre des photos n'importe quand. Ça se place bien à différents moments. Tandis que enregistrer un podcast, il faut vraiment que je le planifie. Ça prend un bloc de temps complet. Je suis dédié à ça uniquement. Je ne peux pas le faire n'importe quand. Donc, il y a aussi ce côté-là, le côté spontané de la photographie qui fait que ça m'a permis de m'investir un peu plus là-dedans. Puis, évidemment, ben, il y a tout le plaisir, la satisfaction que j'en retire. Depuis une couple d'années, j'ai commencé à faire de la photo pas juste par plaisir, pas juste pour répondre à un besoin créatif, puis pas juste dans le but de m'améliorer, mais aussi dans le but de faire des expositions, bâtir quelque chose, bâtir un corpus photographique plus important. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire tranquillement. J'ai commencé aussi à faire des expositions. Et je suis redevenu membre du club photo que j'étais membre il y a plus de 10 ans à Montréal. Donc, moi, j'habite sur la rive sud, dans la deuxième couronne. Donc, je me déplace quand même pour aller à mon club photo à l'occasion. Donc, il y a des expos. Les deux expos, ils ont lien avec le club photo. La première que j'ai faite, c'est quelqu'un qui est membre du club photo qui disait « À ma job, on fait des événements culturels, des expos, tout ça. Et là, ben, on veut faire une expo de photos. » Premier arrivé, premier servi, si vous levez la main, vous dites « oui, je suis prêt », vous exposez vos photos. Donc, j'étais chanceux, j'ai eu un des spots pour faire ça. Puis, moi, honnêtement, je savais que mes photos avaient un certain niveau, mais je ne savais pas par rapport aux autres. Puis, par rapport aux autres de mon club photo, qu'est-ce que ça valait? Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un home run cette fois-là. Évidemment, mes photos étaient peut-être une coche au-dessus de plusieurs qui ont exposé cette fois-là. Il y a un autre gars qui était quand même d'excellent niveau, pas mal le même niveau que moi, mais sauf que ce qu'il a décidé de présenter, c'était un petit peu plus uniforme, tandis que moi, ce que j'ai présenté était plus diversifié, donc ça a plus surpris. Et aussi de ma façon de le présenter, ma mise en scène que j'ai faite, la manière d'agencer les cadres ensemble, ça a fait un petit peu plus « wow ». J'ai fait des plus grands formats aussi que lui. Donc, c'est ça, malgré que lui, il faisait des photos de très grande qualité, les miennes ont un petit peu volé le show. Par la suite, l'année passée, ben, j'ai participé à l'expo annuelle de mon club photo. Et ben, vu que j'avais une caméra 8x10, je me suis donné comme défi de faire un projet avec ça. Un projet de fou. Moi, je suis de même, je carbure au défi. J'aime ça quand c'est... Plus c'est difficile, plus que j'ai de plaisir à me dépasser. Et si je me donne un défi qui est immense par rapport à ce que les autres font, je vais tellement m'investir, puis arriver, puis dépasser tout le monde. Puis même, le plus drôle, c'est quand j'ai commencé à travailler sur mon projet, parce que l'expo était au mois de mai, je commençais à travailler sur mon projet au mois de mars environ. Puis les gens m'ont dit, mais combien tu vas en faire de photos 8x10? J'ai dit, moi, je vais présenter 5 photos 8x10. Et là, à travers mon horaire de gars qui travaille à temps plein, à une certaine distance, qu'une vie familiale, tout ça, fallait que je trouve les moments avec d'autres gens parce que je faisais des portraits. Je trouve des moments pour prendre en photo ces gens-là, pour après ça les développer, les scanner, les travailler, les encadrer, tout ça. Fait que le genre, le 5-6 semaines que j'avais pour faire tout ça, c'était pas trop. Au contraire, même, c'était vraiment trop serré, peut-être. Puis les collègues du club photo me disent, ben voyons, me disaient, t'arriveras pas là, c'est impossible, tu feras pas tout ça. Surtout que quand je faisais mes shootings, je prenais au moins 4 photos de chaque personne que je développe une à une. Puis développer chaque photo, c'est presque une heure chaque. Là. Donc à chaque fois que je prenais des photos, il y avait le temps de développement, le temps de scannage, tout ça, c'était gros. C'était gros. Si on pense que chaque photo, me déplacer et prendre la photo, ben préparer mes plaques aussi de photos, tout ça me préparer, puis aller prendre des photos, on parle d'environ 4 heures, 5 heures. Développement, à peu près une heure par photo. Faire sécher. Les scans et le travail pour dépoussiérer, recalibrer, préparer les fichiers, tout ça, c'était quelques heures par photo. C'est un travail astronomique. Là. Moi, j'avais calculé là, que ça me prenait à peu près réaliser une image au final, un 20-25 heures minimum. Et j'en ai fait 5. Non, j'ai investi plus que 100 heures pour faire mes 5 images. Je suis arrivé, puis c'est sûr, ça n'a pas totalement volé le show parce qu'il y avait du très bon stock. Là, c'était pas juste 5-6 personnes qui exposaient. C'était la moitié du club. On est quand même plusieurs membres, tout ça. Mais je dois dire que mes photos ont eu un très fort impact sur les gens. Donc, ça m'a motivé. Ça m'a motivé à continuer, évidemment, mais à faire autre chose. Puis, j'arrête pas. Je prends beaucoup de photos numériques quand même, mais j'ai retrouvé la passion de l'argentique, de m'amuser avec le film, de jouer avec aussi les méthodes de développement, les techniques de prise de vue, de m'amuser avec ça. C'est vraiment un terrain de jeu, vraiment le fun, puis de réussir à maîtriser, c'est fantastique. J'ai le même plaisir que quand je m'amusais avec l'audio, puis je jouais avec mes boutons, puis je m'achetais du nouvel équipement. C'est un peu similaire, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, oui, il y a quelques différences, tout ça. Ce qui est satisfaisant avec la photo, c'est qu'il y a un objet tangible à la fin qui te reste. Si tu imprimes, tu mets ça dans un cadre, il y a quelque chose, puis tu fais « wow » à chaque fois que tu le vois. quand tu as réussi à bien faire ta job. Fait que c'est ça, en ce moment, je suis beaucoup là-dedans encore. L'année passée, l'été dernier, on a eu le bonheur, ma blonde puis moi, puis les enfants, d'aller faire un tour en Islande. Je suis revenu de là, je pense que j'avais pris, j'essaie de calculer vite, là, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, peut-être 14 rouleaux de pellicule, plusieurs centaines de photos numériques aussi. Fait que j'ai pas fini de traiter tout ça. En fait, il me reste un rouleau à développer. J'ai pas tout trié ni calibré toutes les photos numériques. Je suis allé par passion, par éléments marquants. Puis là, je revisite. Puis il y a des choses que je regarde avec mes yeux d'aujourd'hui versus les yeux de quand je suis revenu de voyage. Je regarde mes photos avec un autre œil. Puis là, je vois, OK, c'est pas juste quelque chose qui évoque quelque chose pour moi. C'est une bonne photo. Et c'est ça le danger quand on fait de la photo, c'est que on est impliqué émotivement dans ce qu'on fait. Donc, il y a les gens qu'on prend en photo, des fois, ça a un impact sur notre perception d'une photo, qu'elle soit bonne. Des fois, une photo n'est pas si bonne que ça, c'est juste qu'on aime la personne ou qu'on a pris en photo ou on a vécu un bon moment. C'est la même chose qu'on fait des paysages. Quand on voit les photos, ça nous rappelle ces moments-là, puis ça nous remet dans cette ambiance-là. Donc, les photos qu'on pense bonnes, des fois, c'est un peu ça, c'est un peu ces moments-là qu'on se remémore. Donc, quand on laisse du temps passer, puis qu'on le regarde de façon plus froide, on voit vraiment les bonnes photos, les bonnes compositions, la bonne lumière, les bons sujets, ce qui va faire que notre photo va être impeccable. Puis, je suis un peu là-dedans en ce moment. Il y a aussi le fait que j'ai développé deux rouleaux la semaine passée, qui me restait à développer, puis il m'en reste un, de retomber aussi dans les photos plus argentiques, tomber dans le noir et blanc. Puis aussi, les photos numériques, ils sont sur mon ordinateur. Je les vois toutes, je les connais toutes. Les photos argentiques, je les connais pas aussi bien, parce que je les vois pas tout le temps. Ils ont pas toutes été scannées. Puis il m'en reste à développer. Fait que j'ai une idée vague de ce qu'il y a sur mes rouleaux, mais il y a des photos que je fais « wow ». Quand je développe, je me rappelais pas. Puis je fais « c'est vraiment fascinant ». C'est vraiment trippant de faire ça, de faire la photo, la découverte, de pas se rappeler de toutes les shots qu'on a pris. Puis aussi, moi, je développe moi-même mon noir et blanc, mais je fais développer les films couleurs par un laboratoire. Puis, quand je vais là-bas, puis je reviens, c'est un peu comme à l'époque, là, ceux qui ont connu cette époque-là, là, tu vas faire développer tes photos, mettons, chez Jean Coutu ou dans un labo photo, d'aller chercher tes photos, puis là, d'être excité, puis de t'asseoir dans ton auto, puis d'ouvrir l'enveloppe, puis de regarder au moins deux fois toutes les photos avant de repartir. Il y a un côté le fun là-dedans. Il y a un côté magique. Puis c'est vraiment... Ça fait partie du trip. Autre que mon trip de création, autre que mon trip de réaliser des bonnes images puis m'amuser, ce trip-là aussi, là, de... On a pris des photos, puis c'est la découverte, la redécouverte de ce qu'on a pris en photo jadis et des moments qu'on a vécu. Ça fait déjà 46 minutes que je vous parle, que je déblatère. Et il est tard, je commence à être fatigué. Puis j'ai le goût de prendre une autre gorgée de bière. Fait que, attendez un peu, je vais vous en prendre une dans les oreilles avant de terminer. Oui, c'est bon. Fait que je vais vous dire à bientôt. Bientôt comment, je le sais pas. Est-ce que ça va redéclencher la passion du podcasting, de parler dans le micro? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que je me suis acheté une nouvelle application de podcasting parce que celle que j'utilisais auparavant, il y a 3-4 ans, 2 ans, Elle est plus supportée, elle est plus mise à jour. Ça s'appelait Buzz Jock. Il y a une version junior. Moi, j'utilisais la version pro pour laquelle j'avais payé, je pense, 7-8 piastres, 10 piastres, je ne me rappelle plus. Qui n'existe plus maintenant. Là, maintenant, j'en ai downloadé une autre. Celle-là, et c'est drôle, là, ça s'appelle Backpack. Et la personne qui fait la programmation de ça, ben, c'est la personne qui a développé Buzz Jock. Buzz Jock, c'est une initiative d'un gars qui s'appelle Dave Mansueto, qui est un des pionniers du podcasting. Il avait engagé un gars pour programmer puis faire ça, puis je pense qu'il a laissé tomber le projet. Fait que le programmeur, le développeur, a fait cette nouvelle initiative-là. Ça s'appelle Backpack. Puis c'est moins cher qu'était Buzz Jock. C'est 6,49 si ma mémoire est bonne, donc 6 piastres et demi. C'est pas si pire. On branche un micro USB. Moi, j'ai branché mon interface USB avec l'outil de connexion de caméra. On peut le faire aussi avec un micro de iPhone, là, avec nos écouteurs. Là, puis ça sonne quand même pas pire. Là, mais c'est sûr, ça sonne mieux avec un micro comme le mien. Donc, vous pouvez essayer ça si vous faites déjà du podcasting, vous voulez vous chercher une solution mobile qui sonne bien. C'est le fun. L'interface, je suis un peu mitigé. Je l'apprivoise encore. Il y a des trucs que j'aimais mieux dans Buzz Jock que dans celui-là. Sauf que la façon de configurer l'audio, configurer les audio cards pour faire jouer les sons. Il y a aussi un outil d'equalizing et de compression. Ça, on peut vraiment, vraiment fine-tuner, ajuster au poil ces choses-là. C'est vraiment fantastique. Donc, j'ai payé presque 7$ pour cette affaire-là. Je vais essayer de la rentabiliser. Peut-être que je vais vous reparler dans le poste. Bientôt, je vais vous causer dans les oreilles. Ça va être le fun. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec un autre classique de The Cure. Ça s'appelle Friday, I'm in Love. Puis, j'aime ça, cette tune-là. Puis, ça tombe bien. On est passé minuit. On est Friday. I'm in Love. Ciao.